Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, aujourd'hui un thème qui est douloureux, qui est difficile, mais c'est important d'en parler. Lorsque un adulte a été, lorsqu'il était enfant, maltraité, qu'est-ce qui se joue? Quelles sont les craintes? Quelles sont les angoisses? Quelles sont les éventuelles sources d'anxiété en devenant soi-même parent? Évidemment, la parentalité, on le sait, réveille beaucoup de choses qui ont pu se jouer dans l'enfance, dans l'adolescence, réveille des traumatismes lorsqu'il y en a eu. Donc, lorsqu'on a été maltraité, vous imaginez à quel point cette période est compliquée à vivre. Donc, on va entendre Laetitia, qui est la maman de Lucie et de Margot, et puis nous serons avec une psy, bien sûr, Patricia Chalon. C'est parti!
C'est vrai, évidemment, quand on a subi des violences dans l'enfance, ça laisse des marques indélébiles dans la vie des victimes. Et quand ces enfants deviennent un jour parents, nombreux sont ceux qui voient ressurgir des traumatismes. C'est généralement un moment clé et le passé remonte. La crainte de devenir parent, de reproduire la même chose avec ses enfants. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la maman de Lucie, elle a 6 ans, Lucie, et Marco qui a 3 ans. Vous avez grandi sous l'emprise d'une mère maltraitante. Et à 29 ans, vous tombez enceinte. Et là, la douleur du passé, les doutes, tout ça s'est emparé de vous. Vous avez été très, très angoissée. Vous allez nous raconter comment vous avez réussi à surmonter tout ça et à dompter vos peurs aussi et vos peurs de devenir maman. Alors, en préparant cette émission, vous nous avez dit que votre maman ne vous avait jamais donné un seul signe d'affection. Votre père, lui, il était très souvent absent parce qu'il avait un travail qui était prenant. Quel souvenir vous avez de votre enfance? Est-ce que vous pouvez nous la décrire?
J'ai pas vraiment de souvenirs heureux de moi petite. J'ai beaucoup plus de souvenirs de tristesse. J'arrive pas à avoir un souvenir heureux. Je sais que je devais tout le temps m'occuper de mes petits frères et sœurs. Si je faisais pas les choses correctement, j'étais punie. Je pouvais rester des jours dans ma chambre, avoir juste le droit de manger et encore quand c'était possible. J'ai pas de souvenirs heureux de mon enfance.
Et pour vos frères et sœurs, c'était pareil que vous?
C'était pareil que nous. Et puis, peut-être un peu plus facile parce que finalement, on les protégeait. Nous, les aînés, on protégeait les plus petits. Donc, pour eux, ça paraissait un peu plus simple. Mmh. Mais c'est vrai que moi, mon rôle de grande sœur était extrêmement difficile.
Vous aviez un peu la charge de toute la famille.
Exactement.
Sur les épaules.
Hein.
Votre père, il a quitté la maison, vous aviez 9 ans. Les maltraitances sont continuées. Se sont même, j'imagine, amplifiées.
Oui.
Mais personne de l'entourage, de la famille, des amis n'a remarqué qu'il se passait quelque chose à l'école, rien?
En fait, c'était très, très facile parce que ma mère, quand on était avec des amis, avec des gens, avec de la famille, elle était extrêmement bienveillante. Elle avait ce rôle, mais de maman tellement aimante. Je pense que c'était presque les meilleurs moments de nos journées quand on voyait du monde parce qu'on savait que ça allait bien se passer, qu'on allait pouvoir vivre presque comme des enfants normaux. Et puis bah, les gens la voyaient comme une maman parfaite, une maman très bienveillante. Et je pense que c'était les jours où on pouvait lui demander presque n'importe quoi. Elle aurait dit oui, quoi. On avait le droit d'aimer ma chérie, mes amours, alors que dès que la porte se refermait, c'était plus du tout ça. On était insultés, on retournait dans nos chambres. Enfin, c'était vraiment la petite parenthèse quand on voyait du monde. À l'école, c'est pareil. Elle donnait le change, finalement. Donc, personne n'a rien vu, quoi.
Est-ce qu'il y avait quand même les fondamentaux, c'est-à-dire est-ce qu'elle vous soignait, est-ce qu'elle si vous tombiez vous aviez un pansement?
Ah non, pas du tout. Alors moi je suis quelqu'un d'extrêmement maladroite et il m'arrivait souvent de me blesser et j'ai ce souvenir de moi au lycée qui machinalement ramasse une gomme par terre et je veux m'appuyer sur une table, je tombe. Je me casse le poignet. Du coup, je suis transportée aux urgences. Je suis plâtrée. Donc, tout ça, j'étais dans un lycée en internat. Donc, ma mère n'était pas là. C'était compliqué pour avoir les autorisations de soins puisque j'étais mineure. Elle disait non, c'est pas possible. Elle simule. Enfin, c'était tout le temps. C'était jamais vrai. Tout ce que je disais, c'était toujours non, c'est faux. Elle ment. Faut pas l'écouter. Donc, j'ai passé. Ils m'ont plâtrée. Je suis revenue à la maison. Ça a été une colère monstrueuse parce que j'avais simulé cette fracture. J'avais beau lui expliquer par A plus B que je ne pouvais pas simuler une fracture, qu'à la radio, on voyait bien ce trait de fracture. Non, donc elle m'a ramenée à l'hôpital, elle m'a déplâtrée, donc je suis restée avec un poignet.
Elle a forcé un médecin à vous déplâtrer.
Elle a forcé le médecin à me déplâtrer, et du coup, je me suis retrouvée avec une fracture mal soignée que j'ai dû re-soigner plus tard en grandissant, quand je suis partie de la maison.
Oui, donc ça a eu évidemment des conséquences.
Complètement.
À 19 ans, après une énième dispute, vous avez quitté la maison. Enfin, elle vous a mis à la porte, quoi. Vous êtes retrouvée seule, vous êtes retrouvée à la rue. Vous avez décidé d'aller vous installer dans une autre ville à ce moment-là. Vous avez trouvé du travail dans une maison de retraite. Et là, en fait, vous avez découvert ce qu'est la bienveillance et le fait d'être apprécié pour ce qu'on est, d'être apprécié pour sa juste valeur. Est-ce que vous avez, à ce moment-là, tenté de rétablir le contact avec votre mère ?
Oui, en fait, quand je suis partie, je voulais prouver à ma maman que j'étais capable de m'en sortir et que finalement, je n'étais pas comme elle me décrivait, qu'elle, elle pensait que j'étais une bonne à rien, une moins que rien. Je voulais lui prouver que, bah, en partant, en ayant un travail, en m'en sortant, j'allais lui prouver que j'y arrive et que du coup, elle allait me reprendre. Parce que moi, à 19 ans, je suis sa fille, je suis elle, enfin, je suis la moitié d'elle. Je me suis dit, elle ne peut pas me laisser seule comme ça dans la rue. Et puis, j'étais persuadée d'être responsable de ce qui s'était passé. Donc, c'était une bataille pour lui prouver et lui demander le pardon et pour lui dire, mais pardonne-moi, je veux te retrouver, mes frères et sœurs me manquent. Et c'est vrai que c'était...
Il avait instauré, en fait, un système de où elle vous culpabilisait
tout
en permanence.
En permanence.
Et puis finalement, fini, comme on n'a plus le curseur de ce qui est normal, pas normal, on pense que c'est sa faute. Quoi.
Tout le temps. Mmh. Et c'est vrai que c'est encore aujourd'hui, parfois c'est difficile, de, même si j'ai beaucoup travaillé, de dire bah, c'est plus de ma faute, c'est pas de ma faute. Quoi.
Et vos frères et sœurs, vous avez gardé contact avec eux ?
Alors, malheureusement, pas tous, parce que quand je suis partie, elle m'a fait passer pour la méchante de la maison. Elle a dit que j'étais partie avec l'argent de la maison, que je les avais abandonnés. Donc pendant, je pense, presque 5-6 ans, j'ai eu aucun contact avec mes frères et sœurs. Ils m'en voulaient, parce que pour eux, j'étais la méchante. Et puis, une de mes petites sœurs m'a recontactée au bout de 5 ans parce qu'elle avait vécu... Enfin, ma mère venait de la mettre dehors. Elle avait vécu, elle aussi, de la violence. Donc, elle voulait comprendre qu'est-ce qui s'était passé pour moi. Donc, on a beaucoup échangé. Et par la suite, une autre de mes petites sœurs qui est revenue aussi. Pareil, elle avait besoin... Enfin, voilà, elle a eu des histoires de violence avec ma mère. Et elle a coupé les ponts aujourd'hui avec ma mère. Et elle voulait prendre le temps et... comprendre aussi moi ce qui m'est arrivé.
C'est que chacun fait son chemin à son rythme. À 22 ans, vous avez rencontré votre conjoint. Est-ce que ça vous a permis enfin de vous construire en tant que femme et de laisser le passé derrière vous ?
Non, pas tout de suite. Ça a été compliqué parce que moi, je n'avais pas de famille. Et du coup, lui, il en avait une. Donc, c'est vrai que j'étais extrêmement possessif avec lui. Je voulais qu'il soit ma famille. Je ne lui ai jamais rien caché. Dès le début, je lui ai tout raconté sur mon histoire de vie, sur ce que j'ai vécu, sur pourquoi j'en suis là, pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Très vite, il a su me rassurer. C'est vrai que c'est quelqu'un de vraiment, c'est vraiment adorable. Il m'a dit, c'est pas grave, ta famille, c'est moi. Ma famille, c'est la tienne aujourd'hui. Et puis un jour, on aura notre propre famille. Bon, d'accord.
En parlant justement d'avoir sa propre famille, vous êtes tombée enceinte quand vous avez eu 29 ans, Laetitia. Alors, vous n'avez pas osé demander le sexe de votre enfant par peur d'avoir une fille, parce que vous disiez, oh là là, est-ce que je vais être capable d'élever une fille, vu ce que sont à mes yeux les relations mère-fille. Et 2 mois avant votre accouchement, vous avez fait une énorme crise d'angoisse. Vous étiez dans votre salle de bain. Avec le recul, c'était quoi cette crise d'angoisse ?
En fait, j'arrivais au terme de la grossesse et je voyais qu'il allait bientôt sortir, ce bébé. Et je me suis dit, oh là là, mais moi, je ne sais pas aimer un enfant, puisque moi, on ne m'a jamais montré, on ne m'a jamais aimé. Et je dis, mais moi, comment je vais faire pour aimer un enfant ? Et en plus, alors si c'est une fille, dans ma tête, c'était juste impossible d'avoir une petite fille. C'était un petit garçon et il fallait que ce soit un petit garçon pour que ça se passe bien. Donc, j'ai vraiment craqué ce soir-là et mon conjoint, il était désemparé. J'étais allongée dans la salle de bain. J'ai dit, je ne vais pas y arriver. Donc, le lendemain, on a été voir une sage-femme qui me connaissait bien et qui a bien vu que ça n'allait pas du tout. Donc, elle m'a envoyée vers une psychologue prénatale avec qui on a entamé un travail sur la famille. Donc, je me souviens, elle m'a dit, Représenter votre conjoint. Donc, j'avais pris une grosse peluche de lion, quelque chose qui me rassure. Vous, comment vous vous représentez ? Donc, je pense que j'ai dû prendre la plus petite peluche qui existe dans le panier. Donc, d'accord. Et puis, elle me dit, et votre maman, comment vous la représentez ? Et effectivement, j'ai pris vraiment la grosse peluche. Et ça lui prouvait que ma mère, elle était trop présente dans ma vie et qu'il fallait
travailler là-dessus.
Exactement.
La rencontre avec votre fille, puisqu'évidemment la vie fait passer les bons messages et est bien présente pour réparer le passé souvent. Donc vous avez vu que c'était une fille, déjà, qu'est-ce que vous êtes dit ?
En fait, Lucie est née par césarienne en urgence. Et quand ils m'ont présenté le bébé, j'ai vu le cordon qui dépasse. Ça me fait rire parce que j'ai cru que c'était un petit garçon et donc du coup j'ai soufflé en disant chouette, c'est un petit garçon. Et mon conjoint m'a dit mais non, c'est Lucie, c'est une petite fille. Et là, stop, ils sont partis avec Lucie. J'ai rien ressenti. Je me suis dit oh là là, c'est trop bizarre, j'en voulais pas. Bon, ok. Presque c'était chouette d'avoir la césarienne parce que ça me laissait un peu de temps sans la voir, quoi. Et quand je suis remontée du bloc et que je l'ai vue pour la première fois, bon. Dans mon cœur, ça a explosé et toutes mes angoisses et tout ce que je pouvais ressentir et la peur que j'avais, elle s'est envolée. Et je suis presque même devenue hyper protectrice avec elle et tout ce que moi je pouvais pas avoir, tout ce que je n'avais pas eu, je lui ai tout donné. Je pense que Lucie, elle a manqué de rien. Elle avait des vêtements à gogo, le moindre petit truc de travers, je l'emmenais chez le médecin parce que c'était des choses que moi j'avais pas eues et que je savais pas si c'était bien, pas bien. C'est des mots d'enfant, mais quand on sait pas, et ben. Donc vraiment très, très, très protectrice avec elle, beaucoup trop.
Après, vous avez eu une deuxième petite fille, Margot. Là encore, on vient vous rappeler qu'on va réparer ce lien mère-fille que vous avez d'ailleurs magnifiquement réparé. Hein. Aujourd'hui, vous en êtes où dans vos rapports avec votre mère ? Comment est-ce que vous voyez votre passé ?
Je n'ai plus aucun contact avec elle. Je pense qu'aujourd'hui, la boucle, elle est bouclée. J'ai plus ce sentiment de culpabilité que je pouvais avoir encore il n'y a pas si longtemps, parce qu'à la naissance de Margot, c'était encore une épreuve de se dire, bon, j'ai une fille, ok, j'ai réussi une première fois, mais Margot, c'est la deuxième, moi, j'avais la place de la deuxième. Le travail que j'ai fait avec la psychologue, parce que Margot est suivie au CAPS, elle a des soucis de santé, ça m'a aidée à me dire, en fait, je suis une femme, je suis une infirmière, je suis une maman, et les trois, je les ai réussies et je suis plutôt fière.
Vous pouvez être fière parce que vous êtes construite absolument toute seule.
Exactement.
Vous avez aussi retrouvé votre papa avec qui vous avez créé des liens, enfin surtout des liens avec ses petits-enfants, qui vous a dit aussi qu'il avait été maltraité par votre maman. Donc les choses se remettent un petit peu en place dans votre vie. Et puis surtout, vous avez créé une très très jolie famille, Laetitia.
Merci.
J'espère que ce témoignage aura été thérapeutique pour vous.
Oui, ça fait du bien. Je pense que c'était le moyen de me dire que ça y est, dans ma vie, cette histoire, elle est derrière moi. Peut-être qu'il y aura des coups durs quand les filles vont grandir à l'adolescence. Je pense qu'il y a toujours des petits passages difficiles. Mais je pense que je suis armée aujourd'hui pour les affronter.
Bonjour Patricia Chalon, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, psychothérapeute et présidente de l'association Enfance Majuscule. C'est une association qui lutte pour la bientraitance et la défense des droits des enfants. On l'a vu dans le témoignage de Laetitia, la grossesse, ça fait remonter les traumatismes du passé. Comment est-ce qu'on explique en fait que pendant la grossesse, ce soit le moment où on développe toutes les angoisses qui sont liées peut-être à des maltraitances passées ?
Alors, pour Laetitia, c'était pendant sa grossesse. Et pour d'autres, ça va être un déclic à un autre moment, à la naissance plus précisément, ou en regardant un film, ou en lisant un livre. Mais la grossesse, c'est quand même très, très propice, parce que là se rejoue toute la maternité, tout ce que veut dire être une maman, donner naissance à un enfant, donner la vie et créer du lien. Donc tout ce qui lui a manqué dans l'enfance, où là, toutes les questions vont se poser.
On a reçu une question en vidéo de Clémence, qui est une de nos téléspectatrices et qui a besoin de vos conseils. Regardez.
Bonjour, je m'appelle Clémence, j'ai 32 ans, j'ai une petite fille de 2 ans. J'ai été victime de violences physiques et verbales durant mon enfance et mon adolescence. Aujourd'hui, j'aimerais savoir comment trouver un juste milieu entre ce que j'ai vécu et ce que je fais actuellement, très souvent lorsque ma fille fait des colères ou fait des bêtises, en fait, je finis par me renfermer et ne rien dire.
Alors, c'est compliqué, parce qu'un enfant de 2 ans, et vous êtes là tous les jours pour expliquer ce que veut dire un enfant de 2 ans, c'est un enfant qui se construit et qui s'oppose. Quand on est face à une opposition d'un enfant, quand on a été maltraité, on se dit « il le fait exprès, contre moi, pour que je me mette en colère ». Donc, il faut connaître un tout petit peu le développement d'un enfant, savoir qu'un enfant de 2 ans, c'est sa façon d'être, sa façon d'exprimer ses émotions, et que ça n'est jamais contre les parents. Il ne fait pas des caprices, il grandit. Mm-hmm. Donc, pour répondre à sa question, si elle sait que c'est parce qu'il grandit, parce qu'il se développe, elle va pouvoir mettre des limites, accepter d'être confronté à un enfant qui fait des colères et ne pas se trouver en danger de maltraitance. Par contre, ce qu'il faut qu'elle se dise aussi, c'est que ça n'était ni de sa faute à elle, ni de la faute de l'enfant. Et que là, il y a quelque chose qui se joue et qu'elles vont grandir toutes les deux ensemble. Oui. Donc, il n'y a pas une posture à prendre. C'est à accepter justement le développement de l'enfant de 2 ans qui va être en confrontation.
Lorraine nous écrit « Maltraité enfant, j'ai fait une grosse dépression du postpartum. Que pouvez-vous conseiller pour vivre la parentalité de façon plus apaisée après un passé si douloureux ?»
J'espère qu'elle s'est fait aider. Parce qu'il y a des moments dans la vie où on a besoin d'aide d'un professionnel, d'une amie, de quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir à un moment.
C'était valable pour Clémence aussi, je pense, la question
oui,
juste
avant. Oui, absolument. Je pense qu'il faut se faire aider. Alors, les gens, ça leur fait très peur. Oh là là, se faire aider, on va aller voir un psy, j'en ai pour 10 ans sur un canapé. C'est pas ça. Laetitia l'a bien expliqué tout à l'heure. Elle a eu besoin à un moment d'être soutenue et ça lui a permis de vivre sa grossesse avec un peu plus de sérénité. Et bien là, c'est pareil. Il faut, surtout pour un postpartum, où on se trouve très, très démuni, être aidé pour reconstruire et être et faire face à une situation qui est très très douloureuse.
Justine, maman d'une petite fille de 2 ans aussi, vous dit « J'ai été maltraitée toute mon enfance. Faut-il en parler à mon enfant? Et si oui, à partir de quand? Et comment lui expliquer ?» Donc, trouver les bons mots.
Alors, je pense qu'à un moment, on va être obligé d'en parler aux enfants parce que les rapports avec les grands-parents, comment Laetitia n'a plus de rapport, par exemple, avec sa maman. Ou alors, les rapports seront peut-être un peu conflictuels. Je pense qu'il n'y a pas un âge précis, mais il y a un moment. C'est-à-dire, on va se servir d'une émission de télévision, d'un livre, d'une situation, d'un copain qui va vivre une situation. Et à ce moment-là, on va mettre des mots dessus. Parce qu'on ne va pas installer l'enfant de 2 ans, 3 non. ans ou 4 ans,
la
lui disant voilà,
oui,
dans une grande discussion qui ne mènera à rien. Tandis que se servir d'un biais à un moment, ça permet de... on a vu poil de carotte à la télé il y a 2 jours, et ben voilà, on va pouvoir s'en servir.
Battue par une mère alcoolique durant mon enfance, j'ai depuis coupé les ponts avec elle. Mais mon fils, qui a 8 ans aujourd'hui, veut la voir et elle souhaite reprendre contact avec nous. Elle vous demande conseil.
Alors, il veut la voir. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Quel lien elle veut maintenir avec cette femme? Je pense qu'il faudra avoir ce qu'on se disait un petit peu plus tôt, une vraie discussion avec son fils sur quelle a été son enfance à elle, pourquoi les liens n'ont pas été créés de 0 à 8 ans. Il va falloir lui expliquer ça. Et puis prendre des précautions. Ce n'est pas parce que cette mère veut la voir que forcément ce sera dans les conditions qu'elle voudra imposer, elle. D'autre part, elle était alcoolique, est-ce qu'elle l'est toujours? Si elle est alcoolique, toujours, non. On ne va pas laisser son enfant avec une mère ou une grand-mère où il risquerait d'être en danger.
Sachant qu'il y a toujours le côté où l'alcoolisme est une maladie. Et donc si on se met à la place de la mère...
Oui. Mais quand on est malade et qu'on a la possibilité de se faire soigner, la maladie alcoolique est soignable. Donc si elle s'est fait soigner et qu'elle est en état maintenant de devenir une grand-mère alors qu'elle n'a pas pu être une mère, pas de problème. Si elle ne s'est pas fait soigner, non.
Pierre vous demande quel est l'impact des violences sur le cerveau des enfants et des adolescents.
Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise. Les enfants qui sont maltraités, les neurosciences nous ont appris ça. Dans le cerveau, il y a des zones du cerveau qui ne s'activent pas ou qui se désactivent. Comme des étoiles qui s'éteignent ou qui ne s'allument pas dans le cerveau. Ça empêche certains aspects des émotions. Les enfants n'ont pas accès à tout. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'avec de la bien-traitance, avec des rencontres bienveillantes, avec un peu d'aide parfois d'un professionnel, ces zones-là, elles peuvent se rallumer. Ça, c'est une drôlement bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'on n'est pas forcément puni toute sa vie et condamné parce qu'on a été maltraité.
Delphine vous demande si un enfant qui a été maltraité peut devenir un parent maltraitant. Question qui revient toujours. Des enfants qui ont vécu des traumatismes dans l'enfance.
Alors, ça peut. Je ne vais pas dire que ça ne peut pas. Mais ça peut ne pas. Et c'est très important que les parents qui ont été maltraités sachent que ça peut ne pas se faire.
En tout cas, avec 100% des cas de ces parents-là se posent la question.
Bien sûr.
Et on s'est craint. Pareil pour les victimes d'inceste.
Bien sûr. Parce qu'ils pensent qu'il y a un lien comme ça.
Une fatalité.
Génétique. Ouais. Non. On peut couper le fil. On l'a vu avec le témoignage ce matin de Laetitia. On peut couper ce fil et faire en sorte que cette malédiction qui concernait cette mère maltraitante ne concerne pas la maman que cette jeune femme est devenue. Alors, je vais donner un exemple, une image. Comme si cette grand-mère, là, cette mère maltraitante, avait bu un poison. Elle était empoisonnée, elle empoisonnait tout le monde. Ça ne veut pas dire que sa fille va, elle aussi, être une empoisonneuse. Je pense qu'il faut vraiment que les enfants sachent ça. Et d'autre part, s'il y a un message à leur transmettre, c'est que ça n'est pas de leur faute. Ce n'est pas parce qu'ils étaient méchants, pas beaux, filles, garçons, arrivés en premier ou en deuxième, que ça leur est arrivé. Ça n'est pas de leur faute. Donc, il n'y a pas une malédiction comme ça parce qu'ils seraient des méchants.
Jeanne vous demande que faire si l'on soupçonne un parent de maltraiter son enfant. Quelle est la marche à suivre pour protéger ses enfants? Donc ça, vous avez peut-être des infos concrètes à nous donner.
119.
On a
une obligation.
Ouais. 119, surtout qu'ils ne décrochent pas toujours. Quand on appelle, ils n'ont pas toujours quelqu'un à nous passer. Il n'y a pas les moyens qui sont mis. Parce que nous, on dit toujours 119. Pour avoir dû appeler le 119 il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que c'était une galère de les joindre.
Ils galèrent. C'est pour ça que nous, tous les ans, on se bat pour que non seulement on ne leur supprime pas des crédits ou des personnels, mais qu'on en rajoute tous les ans. Ils ont été un peu grossis, mais ce n'est pas du tout suffisant. Mais je pense que ce n'est pas suffisant parce que la société n'a pas pris la mesure des maltraitances que subissent les enfants dans notre pays. Je pense que c'est comme ça de temps en temps. C'est quelque chose. L'inceste, les violences, les maltraitances sont des choses qui sont énormément répandues dans notre société. Il faut absolument qu'il y ait un service qui soit à la hauteur. Donc on se bat beaucoup pour ça. Vous avez raison. Quelquefois, ils ne décrochent pas ou ils sont trop débordés. Mais le 119, on s'est beaucoup battu pour qu'il existe.
En fait, il donne la priorité aux enfants qui appellent, ce qui est complètement normal.
Oui.
C'est-à-dire un enfant qui appelle passe en priorité. Mais si vous vous appelez pour dire « je pense que mon voisin », etc., là, il faut s'accrocher pour les avoir.
Alors, il y a d'autres. Ce qui est bien avec le 119, c'est qu'ils vont forcément déclencher une enquête à la CRIP, c'est-à-dire la cellule de recueil des informations préoccupantes. Il va y avoir quelque chose de fait. Il y a d'autres solutions. On peut aller à la gendarmerie, à la brigade des mineurs, chez le procureur. On a différents moyens. Je parle du 119 parce que c'est la chose la plus facile et que j'aimerais bien que ça marche très bien.
Mais il faut être sacrément sûr de soi quand même quand on fait ça, quand on va à la gendarmerie pour dénoncer.
Oui, c'est plus compliqué d'aller à la gendarmerie, dénoncer un comportement, que téléphoner au 119 en disant « Écoutez, il y a un truc qui me gêne là, je ne sais pas quoi faire.
Ouais. »
Ils vont s'en charger eux-mêmes.
C'est ça.
Et nous, médecins, on est très attentifs à ça. On a des formations maintenant, beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans.
Il y avait autrement.
Et quand on a un doute, on décroche et on a même une obligation. Et il vaut mieux parfois se tromper que de ne pas se tromper. C'est compliqué, c'est pas facile.
C'est
pas facile. Et souvent, on en parle entre médecins, parce que j'ai eu un cas il n'y a pas longtemps pour quelque chose qui se passait dans une crèche. On s'appelle pour être sûr d'eux, on a téléphoné à la CRIP, information préoccupante.
C'est à quoi, c'était une péricultrice? Non, c'était quelqu'un, un personnel dans la crèche?
Oui. C'est compliqué.
Ça, c'est compliqué.
C'est compliqué parce qu'il y a des gestes qu'a l'enfant, des gestes de retrait, des gestes au niveau des zones zélitales. Il y a des choses qui nous interpellent quand on examine un enfant. Et alors, évidemment, même une simple constipation. Il y a plein de choses de ce genre-là où on est obligé, on va le noter, mais on ne va pas mettre ça dans un coin. Il faut que ça reste actif pour ne pas passer à côté de quelque chose. Tous dans nos carrières, on est passé à côté de quelque chose.
Vous entendre me réjouit.
Heureusement que ça a évolué.
Mais... ça a beaucoup, beaucoup changé. Oui. La formation des médecins, les signaux d'alerte, la façon dont on regarde les enfants et vous entendre parler me réjouit vraiment.
Oui, surtout que c'est, pour le coup, on pourrait se dire, tiens, c'est un jeune médecin, donc il est au fait des évolutions. Mais là, c'est un médecin qui a quand même...
Ben, j'ai eu le cas d'un médecin généraliste il y a quelques jours. Je faisais une conférence qui est venu me voir à la fin de la conf, c'était sur autre chose, en me disant, voilà, je vais faire une formation pour détecter ce qu'elle a fait pour les femmes. Maintenant, elle veut faire pour les enfants. Et elle me dit, mais comment je fais pour annoncer quand il y a les parents, l'enfant, si je lui dis que tes parents vont aller en prison? Je lui dis, non, attendez, il faut y aller. il y a une formation à faire. Et ce n'est pas simple. Mais il faut ouvrir une fenêtre et il ne faut pas la refermer.
Il t'arrive quelque chose et parce que ça n'est pas normal, on va te protéger. C'est pas on va envoyer tes prêts en prison.
Non, c'est vraiment dire ce qui t'arrive n'est pas normal. Parce qu'il faut replacer le curseur au bon endroit. Déjà, c'est le début de la thérapie, en fait, non?
Ça, et souvent j'entends dire, quand vous faites des formations, quand vous parlez comme ça à la télévision, il y a plein d'enfants qui ne sont pas concernés. Et on va les affoler sur les maltraitances. Et moi, je pense que les copains, c'est une ressource extraordinaire.
Bien sûr.
Et de voir que ce n'est pas comme ça chez les copains, et de pouvoir en parler à des copains, c'est bien que les copains soient informés qu'il y a des maltraitances.
Chez les plus grands, c'est d'ailleurs l'infirmière scolaire. Mais ça, c'est les plus grands. C'est la copine ou le copain moins souvent, mais la copine qui va aller dire « Ah, ben, ma copine, elle a dit telle et telle chose ». C'est comme ça qu'il y a des choses qui s'enclenchent.
Tu peux rappeler mais c'est chez les trois enfants par classe victimes d'inceste.
Deux à trois, oui, tout à fait.
Deux à trois, donc je veux dire, ça concerne tout le monde.
De violence sexuelle, pas d'inceste.
Pardon, de violence sexuelle.
C'est vraiment important qu'il y ait une prise de conscience globale dans notre société que ça concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Et qu'on est tous concernés, puisque ce sont nos enfants.
Alors, Karine vous demande comment réagir si on voit un parent donner une fessée à son enfant. Donc là, c'est être témoin de quelque chose. Est-ce que on appelle le 119 parce qu'il donne une fessée à son
enfant? Ça dépend, dans la rue, le voisin, c'est pas du tout, ça dépend du contexte. Qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est la voisine de palier, on va pouvoir essayer de lui parler et lui expliquer que le geste violent ne changera rien. Au bout de 10 gestes violents, l'enfant va dire même pas mal. Donc on va lui expliquer que c'est un geste qui n'a aucun intérêt et qu'il y a d'autres manières de faire, etc. Dans la rue, alors moi j'interviens, mais je sais que c'est difficile.
Vous êtes professionnelle.
Parce que je suis professionnelle, je vais voir en disant, vous savez, là, je pense que vous êtes énervée. Je pense que sans doute vous êtes à bout de nerfs et que c'est la seule réponse que vous avez trouvée, mais ce n'est pas une bonne réponse. Et j'essaye de parler.
Vous ne pouvez pas envoyer bouler parce que là, dans la rue, c'est compliqué en plus.
C'est difficile. Et je rappelle toujours que depuis l'année dernière, la violence éducative est interdite par la loi. La fessée est interdite. Donc remettre un coup de loi, ça fait pas de mal de temps en temps.
Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. Merci à toutes, merci à tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes à de P2L et à France Télévisions qui permettent à ce podcast de voir le jour. Je vous dis à demain, à bientôt, quand vous le souhaitez. Salut tout le monde, prenez soin de vous, ciao.